Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Je reçois Laurent Grisel pour son ouvrage « Que ne disent mots » qui a été publié aux éditions Lanskin. Laurent Grisel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes écrivain, vous êtes né à Boulogne-Billancourt.
Oui.
Vous avez fait des études de psychologie avant de devenir ouvrier en banlieue parisienne, puis dans la région de Dunkerque.
Oui.
Vous avez été pendant 9 ans permanent dans une association de consommateurs et d'usagers, puis conseiller en environnement. Et depuis cette date, vous consacrez l'essentiel, depuis cette date, c'est-à-dire 2001, l'essentiel de votre temps à l'écriture, la poésie, l'esthétique et des ouvrages sur l'environnement. Vous pratiquez, dites-vous, la lecture à voix haute, notamment depuis mai 2013. Où vous avez lu l'intégrale de l'esthétique de la résistance de Peter Weiss. Vous vous intéressez à beaucoup de thèmes et on va évidemment, au travers de votre ouvrage d'abord, puis d'autres ouvrages, dont l'ouvrage Climat que vous avez fait, qui est lié aux problématiques environnementales, au sens général du terme, évoquer vos travaux, votre travail. Mais pour commencer, j'aurais bien aimé, Laurent, que vous ayez la gentillesse de nous lire un texte.
Eh ben, je vais lire pour commencer le premier poème qui ouvre. Qui ne disent mot. Dans les rendez-vous ratés, tu as souvent tourné sur toi-même de porte à porte, faisant tes preuves hors de portée des voix officieuses, en retrait, attention affrontée deux à deux. Reviens sans amertume voir ceux qui ont grandi et ceux qui les ont accompagnés dans leur autre obstination. Viens voir ce que le vent tourbillonnant a laissé et ramasse-toi toi-même. Il y en a des amis qui, comme toi, creusent ceux qui se creusent, sans se lasser jamais, le cœur plutôt gai.
Pourquoi est-ce que, Laurent, vous utilisez la poésie, enfin plutôt vous écrivez de la poésie plutôt qu'autre chose. Enfin, bien sûr, vous travaillez aussi, vous écrivez aussi des essais, etc. Mais pourquoi la poésie? C'est une question, vaste question, comme on dirait, mais voilà, c'est un outil particulier.
En fait, je constate que écrire la poésie est pour moi beaucoup plus facile qu'écrire de la prose. Je trouve que la prose est un art très difficile. J'admire beaucoup les gens qui écrivent des romans, des nouvelles et tout ça. Peut-être parce que l'écriture me vient dans des impulsions de forme, c'est-à-dire que la thématique, le vocabulaire, le ton, l'allure, la musique, quand la certitude d'un poème est là, tout cela est là en même temps. Et donc c'est un poème, il n'y a plus qu'à l'écrire.
Mais cet ouvrage qui ne disent mot, c'est un ouvrage où vous faites en quelque sorte parler ceux qui en général ne parlent pas. Enfin, vous parlez pour eux ou vous parlez avec eux, je ne sais.
Je ne sais pas si ces distinctions présentent le moindre intérêt, franchement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire pour eux ou avec eux ou à leur place, non, c'est pas du tout. Pour repartir de cette intuition initiale que je viens d'évoquer, ce qu'il y a au départ, c'est, disons, une relation. Et le poème vient parce que il faut qu'il y ait une justesse de relation.
Donc, entre quoi et quoi?
Par exemple, je fais un portrait d'un ami qui s'appelle Serge, dont j'ai respecté son nom. Je me souviens de lui, je le vois. Et donc, j'écris ce que je vois, ce que j'entends. Donc ça s'adresse à lui ou à n'importe quel Serge ou n'importe qui voudrait se prendre pour Serge ou qui voudrait parler à la place de Serge, peu importe. Il suffit que ce soit Serge et la relation que j'ai, que nous avons avec lui.
Que nous avons, que j'ai, c'est ça, c'est pas tout à fait pareil.
Ouais.
Ou alors, le poète que vous êtes, quand vous écrivez, vous donnez une sorte d'universalité dans la relation.
Il y en a forcément une. Dans l'instant où le poème est formé, ce n'est plus tout à fait toi, c'est au destinataire, c'est n'importe qui le lira. L'adresse du poème, elle est impersonnelle. Et en ce sens, n'importe quel poème est impersonnel.
Kyoto. Dans les futurs, des coqs chanteront, dans les cours, dans la ville désertée, dans les stades où l'on ne jouera plus. Il y aura des temples au coin des rues, loin des rivières, près des ateliers, des chiens de pierre, bandelettes, du papier blanc autour des chevilles, têtes dressées, tournées sur la gauche, feront leur concert d'aboiement sec dans l'ombre. Distributeurs automatiques d'offrandes, prières suspendues, standards de souffrance et de souhait, accrochés pour longtemps à l'ombre, à l'abri. Moi, j'ai lu ce poème, je l'ai bien aimé, sans ça je ne vous le lirai pas. Je ne nous le vous lirai pas. Mais j'ai mis un point d'interrogation. Là, c'est un dialogue intuitif avec un lieu, avec l'idée d'un lieu, avec quoi ?
C'est une scène d'attente. Je l'ai composé mentalement. C'était un dimanche matin, donc à Kyoto. J'avais rendez-vous en début d'après-midi avec mon ami le poète Sid Corman, qui a passé l'essentiel de sa vie à Kyoto. Mmh. Et dans les rues, on trouve ce genre de temple, en quelque sorte ouvert à tout vent. Et je l'ai vu, je l'ai senti, non pas au présent, mais au futur. Et c'est ce que dit ce poème.
Et vous l'avez écrit sur place ? Juste assis sur un petit banc?
Non,
à côté.
J'étais debout, je regardais et la composition est venue. Voilà. J'avais plus lu après ça qu'elle écrit. Hein. Donc il y a des compositions instantanées, il y en a d'autres qui prennent beaucoup plus de temps.
Et quand vous dites qu'il n'y avait plus qu'à l'écrire, mais vous vous en souveniez? Ou est-ce qu'il y a le laps de temps qui existe entre le moment où vous avez composé à l'intérieur de vous-même et le moment où vous le mettez sur un bout de papier? Est-ce que le texte évolue ?
Non, je n'ai pas employé le bon verbe. Il n'y avait plus qu'à le noter.
Il n'y a plus qu'à le noter.
Ouais. Cette fois-ci, j'ai eu de la mémoire.
Parce qu'il y a des jours où vous ne l'avez pas.
Oh, elle est très déficiente, oui.
Et alors, continuons ce livre. Quel est son cheminement ? Parce qu'il y a des, par exemple, il y a Ryokan, des trois sœurs, et qui est très beau, très, très... court, un boulot droit, horizontal, traverse la chambre d'un mur à l'autre. Voilà, c'est presque un haïku. Enfin, c'est pas un haïku, c'est pas la forme du haïku.
Mais... Bon, on s'en fout des haïkus.
Exactement.
Hein,
enfin, certains s'en foutent. J'en fais partie.
Non, mais c'est ça. Faut pas s'en foutre. C'est une forme extrêmement rigoureuse et qui vaut dans sa rigueur. Bon, après ça, dans ses formes relâchées, ça vaut par la sincérité de ceux qui l'écrivent. Bon, voilà. Là, faudrait parler beaucoup des formes brèves. Ça, c'est un grand sujet. Mais pour revenir au ryokan des trois sœurs. J'arrivais à Kyoto dans l'après-midi du samedi, après mon boulot à Tokyo. Et donc, j'allais dans un hôtel quelconque, en général un hôtel de salarymen, d'employés. Et là, ce coup-ci, là, j'avais fait je m'étais offert le luxe de ce célèbre ryokan. Et ce qui était évidemment ce qui donnait tout son espace là, c'était l'horizontalité des poutres.
Mmh. Oui, c'est amusant. Mmh. Et comment vous dites ? Il y en a un autre très court qui s'appelle Fagot.
Hein. Ouais.
Arbre réduit à leur courte ligne droite ébranché, noir, hurlant bas. Voilà. Vous parliez des formes courtes et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'il y aurait de beaucoup à dire sur les formes courtes ?
La question, c'est celle de l'espace qui est évoqué, dans lequel on écrit, dans lequel on lit, dans lequel on se trouve. Un poème, il fait ce que fait une photographie, ce que font une pièce de théâtre, il crée des espaces propres et donc des durées propres. Une bonne partie de mon travail, en fait, même, je pourrais résumer tout mon travail depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, ça a été d'aller du court au long. J'étais pas satisfait du cours. Enfin, j'en étais très rarement satisfait. Bon, pour exprimer les choses de la façon la plus simple, c'est que il y a beaucoup de choses à dire qui tiennent pas dans un format court. C'est aussi bête que ça. Quand je me suis retrouvé devant le défi de climat, il y avait tellement de choses qui se bousculaient qu'il fallait vraiment que j'aie la place et le temps. Donc, d'où la forme épopée qui permet d'accueillir toutes sortes de personnages, d'événements et de grands contrastes de proportions, des plus petites aux plus gigantesques. Format court, s'il arrive à attraper le cochon par la queue, c'est bien. Mais c'est pas si évident que ça.
Mais est-ce que c'est lié aussi à ce que vous avez évoqué sur la fiction, le roman, en disant que vous admirez les gens qui écrivent de la prose, en quelque sorte ?
Ouais.
Et la prose, évidemment, c'est long. Enfin, je veux dire, c'est en général beaucoup plus long que les formes courtes. C'est le moins qu'on puisse dire.
On est d'accord, oui. Voilà.
Mais il y a une admiration ou aussi une espèce de...
Ah oui, j'admire énormément, oui, beaucoup, oui, bien sûr, bien sûr. Mais il se trouve que ce n'est pas mon moyen d'expression. Enfin, il faudrait que je réapprenne complètement un autre métier. Ça, là, maintenant, c'est tout à fait impossible.
Encore qu'il y a quelques poèmes qui sont... assez long, entre autres la marbrerie du Moulin Rouge, mais on va le voir tout à l'heure.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je reçois Laurent Grisel pour Kinodismo, qui est publié aux éditions Lanskin. Et Laurent, vous avez choisi vous-même les musiques de cet entretien. Et il y a là les variations Diabelli, dont on a entendu une première thème. Et
première variation.
Première variation. Et on va entendre la deuxième.
Alors, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre les deux. Dans ma jeunesse, j'ai écouté ces variations ad libitum. Et ça a fixé pour moi un but qui était d'écrire en poésie des variations sur un thème. Thank you. c'est cette possibilité qui est extraordinaire de transformation d'un thème, d'une mélodie, non pas tout à fait en une autre, mais une nouvelle dérivée de la première. J'ai écrit pas mal de textes dans cette forme, par exemple un hymne à la paix 16 fois, dans lequel 16 fois on est en guerre et on finit dans la paix, dans une sorte de paix. J'ai écrit aussi « Changeons d'espace et de temps », que le programme est vaste. Et il y a un thème qui est donné par, plutôt une espèce de boîte à thème, qui est donné par un poème qui s'appelle « Musique ». Et il y a ensuite différentes variations, les plus éloignées possibles du thème, mais toujours évidemment en rapport avec le thème, puisque ce sont des variations. Et de cette façon-là, je dessine un espace qui est extrêmement, extrêmement vaste et dans lequel se produisent des événements. C'était un défi d'arriver à écrire dans ce genre de capacité. Et j'étais persuadé d'être le premier, le seul à avoir fait ça. J'étais un peu décontenancé et vexé quand j'ai découvert que Pasternak avait lui aussi écrit « Thèmes et variations ». Mais bon, nous ne sommes pas nombreux.
Vous nous lisez un texte ?
Eh bien, peut-être justement « Marbrerie du Moulin Rouge ».
On peut se le partager, vous lisez un morceau, puis après j'embrayerai pour changer la voix.
Ah ben, on va voir ça.
On va voir ça.
On va voir si ça marche. Pour commencer le titre. Marbrerie du Moulin Rouge. À Verberie ou Saint-Ine, au bord de l'Automne, dans le département de l'Oise. Officiellement, Marbrerie de Picardie, usine de Saint-Ine. Moulin fut nommé Rouge, non de sang, mais de garance. Et fut rouge la rivière, non le moulin. Attenant au moulin, l'usine non plus rouge, mais blanche et noire. Blanche la poussière restée, ouvrier parti. Noir les arbres, cames, piliers, roues, engrenages d'acier, de fonte. Ouvrier éclairé par lumière zénitale. Banc de sillage nourri par les blocs amenés d'aplomb dans l'axe par train. Et dans un temps plus antique, arbre de n'importe quelle fabrique tournant sur eux-mêmes par roues entraînées par eau. Il y eut un démon de l'abstraction tournant, convertissant. L'énergie horizontale constante et rectiligne de la rivière canalisée en énergie constante tournante et fixée sur l'arbre tournant n'importe quel outil écrasant, broyant et même par arbre à cames, révolution convertie en mouvement alternant, sciant, tissant, fil et trame, tissant les ouvriers, sciant les ouvriers. Et par poussière encrassant les ouvriers, leurs bronches, poumons, pieds à décrasser le soir par eau courante de la poussière que n'abattit pas l'eau aspergée au-dessus des bancs de sillage. Et par monotonie et répétition, la géométrie de l'espace imparti, abstraite, incorporée, géométrie dans laquelle se mouvoir, servir le travail des machines, le découpage des blocs en plaques, la superposition des plaques, leur stockage, une mise en attente, un repos bref des pierres, pierres accumulées dans les alvéoles durcissant, pierres en les poumons, la géométrie de l'espace et des gestes inclus, incorporés, mentalisés, homme géométrisé, se sachant géomètre, extrait, abstrait de lui-même, pendant le travail même rêvant, au-dessus de soi opérant, opération de séparation des blocs en plaques, de séparation de soi-même en deux êtres, l'un travaillant, l'autre songeant, séparation indéfiniment répétée, interrompue seulement par coincement, fatigue, encrassement des machines. Par la pause du repas, pour la première équipe de midi à 1h30, sa journée va de 7h le matin à 18h le soir. 11h30 de présence, 10h de turbin. Pour la seconde qui travaille de midi à 10h du soir, 10h de présence, 10h de turbin. L'équipe imposa-t-elle ? Les équipes imposèrent-elles aux machines et aux patrons une pause ? De 5h à 5h30, les journées sont dures. J'aurais préféré le poste de l'après-midi, je le sais. Ce qui me manque, ce sont les prénoms. Par quel nom s'interpelle-t-on ? Par quel prénom se nomme-t-on ? Mentalement, ne pas oublier au Louis de lui dire. À haute voix, l'interpeller. Louis ! Contre le crissement des scies, leur chant violent, brusquement élevé des graves aux aigus, et chacun dans l'atelier sait, par son ventre, par ses épaules rentrées, où le banc d'à côté en est de la morsure dans la pierre. Et chacun sait quand ce son cessera, plaque séparée du bloc, puis quand ce son reprendra. Et ce rythme monte jusqu'au bureau où l'on sait, par l'oreille, si la cadence est maintenue. Les ouvriers sont des bras, dit-on, mais ne retranchez rien. C'est par ventre et tendons qu'ils vibrent. Et ceci est abstrait, par répétition abstrait. Les patrons ont des oreilles et descendent brusquement. Que se passe-t-il quand le bruit de scie est changé en hurlement ? Quand l'harmonie de l'atelier est tuée ? Qu'est-ce qui a été enlevé et parti, mêlé aux poussières, à l'eau, chair, sang, souvenir, fraternité ? Et qu'a-t-on enlevé, mot après mot, morceau après morceau, pour que de Louis, ou même sur les registres Louis et Riquier, on en vint à les ouvriers, puis l'ouvrier, l'ouvrier en général abstrait, non de lui-même, mais de la société. Un outil précis prit la veste de Louis. Il hurla. Il lutta. Presque seul, d'abord, pour appui seulement sa femme, ses enfants, trois collègues, les autres sourds, réprouvant l'erreur, l'inattention. C'est de sa faute quand même. Mais deux autres rejoignirent les lutteurs, et le curé s'en mêla. L'eau coule encore, s'engouffre vers la turbine. Ils gagnèrent indemnité, repos, réparation, reconnaissance de la chaîne causale. Quand on sort de l'usine, oreille encore bourdonnante, on entend à nouveau la rivière jamais lassée. L'être est entier, il ne faut rien ôter, ne rien retrancher. Il faut l'être entier garder. Vibration, géométrie, tendon, plaisanterie, combat. Et tout, on le transmet au fils, à la fille, aux enfants des enfants. Ils vivront, ils verront.
Merci. Cette marbrerie, vous l'avez connue ?
C'est une vraie marbrerie qui était, quand j'y suis entré en l'été 2014, juillet 2014, quand je suis entré dedans, elle était gardée dans son jus. Il y avait encore à l'entrée le panneau des horaires, donc qui est repris dans le poème. Et tout était laissé en place depuis le milieu des années 70, je crois. Et il y avait donc les bancs de siège, il y avait les poulies. C'était pas, l'outillage n'était pas mis en mouvement par l'eau. C'était des machines électriques. Et chose extraordinaire, dans l'un des bancs de siège, délibérément, les ouvriers avaient laissé un bloc de marbre et avec la scie enfoncée dedans. Et quand je suis entré, avec cette lumière qui tombait du haut, j'ai vu, j'ai entendu l'usine, j'ai entendu les ouvriers, j'ai vu le travail. Et donc le poème a commencé tout de suite de s'écrire. Et je l'écris très vite, en 4 jours. Donc c'était vraiment très, très rapide.
Mais là, c'est presque une histoire. Hein. On suit le... Voilà, il arrive quelque chose, il se blesse, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, le marbrerie, ça coupe la pierre avec des lames, mais aussi avec de l'eau.
On utilise oui, l'eau, hein. Depuis, cette technique est complètement obsolète, a été abandonnée. Aujourd'hui, on utilise du laser ou des ultrasons, je ne sais pas très bien, un autre procédé. Donc, il produit beaucoup moins de poussière.
Allegre FM 93.1.
Je reçois dans Chute Libre Laurent Grisel pour Qui ne disent mot, publié aux éditions Lanskin. Et on vient d'entendre des extraits de la musique de Ligeti. Pourquoi vous avez choisi cette musique?
Parce qu'elle est lumineuse. Et je crois que c'est un des enjeux en musique, en peinture, en poésie, c'est la lumière. D'ailleurs, j'ai écrit le poème, la séquence conclusive de Climat, épopée. C'est justement la lumière. La lumière. 300 km par seconde. Prend une journée pour parcourir le système solaire. 100 000 ans pour traverser la Voie lactée. 10 millions d'années, notre groupe local. 500 millions, la Niakea. 13 milliards 800 millions, l'univers visible. La fenêtre est ouverte, l'air est la lumière.
Ça relativise les choses. Proche, à proximité des voies, l'herbe qui fuit sur le talus, des roulottes tassées dans un champ carré, une trentaine de vaches qui paissent, parallèle à la voie, un champ de maïs serré, régulier, trois arbres assemblés au milieu d'une prairie. Je me souviens, j'allais à Nanterre-la-Folie, j'étais présent au talus. J'étais présent au talus, le long de la voie, ou c'est quel talus ?
C'est vraiment un train de banlieue, c'est à Nanterre-la-Folie, et donc on peut regarder par la fenêtre. Et il y a une certaine façon d'être là.
C'était la gare de l'université de Nanterre.
Oui, c'est en allant à Nanterre. Ouais.
Vous avez donc travaillé en usine pendant un moment, je crois.
Oui.
C'était un choix ou c'était...
C'était pas un choix, j'étais étudiant raté, il fallait que, quand même que je gagne ma croûte. Bon, mais maintenant, comment ? Et dans mes jobs d'étudiant, j'ai eu déjà quelques expériences ouvrières qui m'avaient vraiment énormément réjoui. Et en fait, travailler en usine, c'est un choix de langue, un choix littéraire, si je puis dire. J'en avais plus qu'assez de la langue intellectuelle, de la syntaxe universitaire, des fantaisies étudiantes. C'est vraiment... Et je savais que pour écrire, je devais absolument changer de bain de langue. C'est vraiment une réaction vitale, quoi, de survie. Quoi. À l'époque, je m'essayais au militantisme politique radical. Et là aussi, c'est beaucoup un truc de petit bourgeois intellectuel. Donc il me fallait absolument changer l'univers, entendre d'autres voix, d'autres façons de s'exprimer, de parler, de signifier. Et donc j'ai bossé en usine, sur chantier, en entrepôt. J'ai été pendant un temps ajusteur mécanicien. J'ai bossé sur des machines, j'ai aussi fait beaucoup de manutention. Là où j'ai travaillé plus longtemps, c'était à Vallourec Dunkerque. C'est une usine qui n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que de l'herbe verte. Et donc, c'est la construction de tubes, d'éléments pour les pipelines en acier, des tubes de 12 mètres de long et de quelques tonnes. Et donc là, j'ai d'ailleurs exercé un mandat de délégué syndical. J'ai participé et animé un certain nombre de luttes, de grèves. Donc j'y suis vraiment allé à fond et c'était vraiment une grande joie que de regarder, écouter.
Mais il y a aussi dans votre écriture quelque chose d'une certaine de recherche de précision technique, comme un ajustement des mots, avec, mais qui, n'ayant pas peur de, ni du chiffre, ni du, voilà, du propos presque explicatif ou descriptif simple.
Le lyrisme, le choc, l'émotion, le changement de dimension du lyrisme est très lié au détail, à la précision du détail. La lyrique vient du détail.
Dans le vapeau-craqueur, usine haute, tuyauterie, éclairée la nuit, introduire le la naphtha ou toute autre chaîne longue de carbone, la vapeur l'y attend, à 500, à 5 à 600 degrés, on ne voit rien. Voilà. Des accidents de transport du polyphylène, il n'y en a pas, presque, mais le camping Los Alfaques à San Carlos de la Rapta, Costa Brava, Espagne, le 11 juillet 1978, vers 14h30, un camion chargé de 23,5 tomes au lieu de 19, un autorisé, etc. Voilà. Vous donnez des éléments, c'est une description, mais une description extrêmement factuelle.
Oui.
Il y a des gens qui diraient, mais je n'en fais pas partie, pour l'instant tout au moins, c'est pas de la poésie.
Ben, si, parce que projeté en morceaux à 300 mètres, une boule de feu en 10 secondes, 100 mètres de hauteur peut-être, 100 morts tout de suite, vêtements en feu, nageurs bouillant sous les retombées, réservoirs des voitures de vacances et bonbonnes de gaz, bombes secondaires, 67 personnes brûlées à vie. On en a tiré les leçons, lois, normes, techniques, contrôles. Cela, la technique, invisible, inaperçue. Mais si audible la rhétorique, une date et un nom cités entre deux virgules, et des chiffres inexacts, 150 morts, pourquoi pas. Il y en eut 217, enfin. Butane au lieu de propylène, etc. Faire dramatique. Eh bien, donc c'est une réponse aux gens qui prétendent que ce n'est pas de la poésie.
Et d'ailleurs, c'est un des derniers poèmes, enfin, l'avant-dernier poème de votre texte, qui termine par « Et on a du pimpant imputrescible, etc. » C'est joli.
Oui, je m'amuse beaucoup à cette moquerie, oui. Oui. À chaque fois, ça me fait rire. J'espère que ça fait rire aussi les auditeurs.
Oui, je peux d'ailleurs lire le dernier poème. On ne saurait sans catalyseur assembler les molécules de propylène C3 et H6. 9 atomes non libres, simplement ou doublement liés. Violence extrême, énergie, que nous préférons ignorer dans notre en nous matière, vie et non-vie, liaison et déliaison, rendement entre 60 et 80 degrés Celsius. 35 tonnes de PP par kilo. Et on a du pimpant imputrescible,
etc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ces poèmes, ils ont une forme spéciale. C'est un cycle. C'est-à-dire que là, l'édition papier a du mal à rendre compte de ça. En fait, il y a un cycle de vie du polypropylène, depuis les champs ou puits de pétrole jusqu'à la combustion des déchets dans les incinérateurs. Je n'ai mis aucune... c'est pas complet. J'ai pas mis le recyclage chimique parce que ça, c'est un point de vue d'ingénierie. Je pense que c'est vraiment... je suis pas le seul à penser que c'est vraiment une absurdité sur le plan de la physique du système. Mais l'enjeu ici, c'est celui de la chimie, en fait. Et placé dans l'histoire des luttes pour la possession et le commerce du pétrole, et aussi de la chosification de l'humanité. Et donc les poèmes sont liés les uns aux autres. La poésie, elle ne vient pas d'un moment, d'un détail qui paraîtrait scandaleux à des poètes poétisants, même si j'avoue avoir plaisir à les prendre par la manche et à les secouer un peu. Mais c'est fraternel. Mais les séquences ne valent que par la relation qu'elles ont entre elles, vraiment comme dans un cycle. C'est, l'ordre des poèmes est déterminé par la physique du système. On suit le cycle de vie. Et donc la violence, elle est là, nous, gens de combustion lente. Mm-hmm. Tant que nous vivons, savons l'étrangeté de cela, l'inadmissible étrangeté du feu, destruction de l'homme comme lien, l'horreur d'être réduit à atomes dansants. Crétacé, de 144 à 65 millions d'années. De 10 à 15 degrés de plus qu'aujourd'hui. Des palmiers en Alaska. Les mers à 200 mètres au-dessus du niveau actuel. Dans l'Atlantique tropical, plus 42 degrés. Si les coquillages n'avaient pas en masse retenu, accumulé, stocké le carbone, formidable falaise de craie, Terre, peut-être, se serait transformée en Vénus. Puis de carbone, les coquillages accumulés, empilés, entassés, 1 million d'années pour produire 30 mètres de craie. Regardez les falaises, regardez les mouettes vertigineuses qui montent le long des parois, appuyées sur les vents de falaise qui leur ébouriffent les plumes du ventre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je reçois Laurent Grisel pour Kinodismo, puis aux éditions Lanskin. Et là, ce que nous venons d'entendre, c'est une composition commune que vous avez faite avec des amis à vous, je crois.
Oui, en fait, donc Climat, on a parlé un peu de cette épopée. Et donc Fred Wallisch, qui est un ami, qui est un saxophoniste, improvisateur, qui fait aussi de la musique électronique, s'est emparé d'un enregistrement que j'ai fait de quelques extraits de cette suite, de cette épopée, et l'a partagé avec un ami à lui, Philippe Salicetti. Donc il y a deux musiciens, Fred et Philippe, le piano et le saxo, plus la musique électroacoustique, et ça a produit un superbe disque dont on vient d'entendre un morceau.
Alors Climat, je vais en lire un petit extrait. Dans les carrières de Maishan, province du Zhejiang, entre calcaire gris et mudstones argileuses, une couche grise presque noire de 12 mm, une époque pratiquement sans vie, nul coquillage, nulle trace de fougère, nulle trace animale. L'événement eut lieu il y a 252 millions d'années. La température monta brusquement de 6 degrés. Plus d'herbe, plus d'arbres, plus de buissons, la terre fut lessivée sans résistance par des pluies diluviennes. Et puis l'aridité. Les déserts remontèrent jusqu'en Europe occidentale, jusqu'au nord des États-Unis, peut-être même pas loin du cercle arctique. Au pôle nord, l'océan à température de baignade, 22 degrés. Il fallut ensuite 50 millions d'années d'adaptation, de division, de multiplication pour retrouver faune et flore riches, diverses. Alors voilà, Climat, c'est un ouvrage que vous avez fait, Laurent Grisel, sur le climat, les dérèglements climatiques, ces problématiques qui sont au bord de nous. Comment ça marche, Climat ?
Le livre, il marche très bien.
Je m'en fiche de la façon dont il marche, mais quoi, il fonctionne.
En fait, il y a Climat au pluriel, il y a un S. Donc, c'est Climat d'aujourd'hui, c'est les climats du passé, les climats terrestres, mais aussi sur Mars, sur Vénus. Les climats futurs, possibles. Donc il y a d'abord cette pluralité qui justement ouvre un grand espace. On n'est pas focalisé seulement sur les événements présents ou passés et ainsi de suite. Mais justement d'en avoir plusieurs permet de rapprocher, ressentir, comprendre. Donc c'est une épopée qui essaie d'ouvrir de très grandes dimensions. Et le défi c'était celui-là, c'est comment prendre en compte toutes les dimensions de l'événement. Et donc pas seulement les dimensions physiques ou climatiques, mais aussi politiques, financières. Il y a le paysan africain qui fait des demi-lunes avec de la terre sèche dans son champ pour retenir l'eau qui tombera. Il y a les luttes collectives des Indiens monolocaux en Amazonie. Il y a les spéculateurs du marché du carbone. Il y a toutes sortes de choses. Et le défi politique, c'est que tous ces événements soient en relation les uns avec les autres, se heurtent, résonnent ensemble. Mais vraiment, je vois ça vraiment comme un morceau de musique, une musique composite qui fait travailler ensemble aussi bien violon, violoncelle que les bruits de la rue. Je me suis beaucoup autorisé à faire des choses en poésie pour avoir vu des tableaux dans lesquels étaient collés des morceaux de journaux. Je pense que quelques dizaines d'années plus tard, on peut nous aussi faire des choses du même genre. Ne pas se contenter des articles de journaux, mais vraiment de faire se heurter des tonalités, des registres différents. Et je crois que c'est ça qui permet de regarder en face ce qui se passe.
Mais quel peut être l'effet de cette façon de procéder, c'est-à-dire de mettre en comme un orchestre de propos une problématique politique réelle, géographique très importante, mais est-ce que le but c'est de attirer l'attention des gens ou c'est d'essayer de intégrer la sensibilité que ça sous-tend ou de la décrire ou d'en faire un tableau?
Ouais, c'est ça, l'enjeu c'est l'insensibilité. Il y a d'ailleurs une séquence de poèmes qui est consacrée entièrement à l'insensibilité. Il y en a d'autres qui parlent de la sensibilité. Ça fait partie des enjeux. C'est-à-dire que l'insensibilité est un atout vraiment dans les mains des puissants. Et la sensibilité, à rebours, est vraiment une condition même de la lutte et de la fraternité et de la non-résignation. L'inspiration peut-être, c'est difficile d'en parler parce que même si j'ai écrit ça il y a pratiquement 10 ans, c'est vraiment l'inspiration, c'est vraiment regardons les choses en face, quoi. On peut pas, et c'est un appel au combat. Mais on ne peut pas se battre, on ne peut pas s'entraider si on ne comprend pas, si on ne sent pas de façon commune, ensemble. Alors, si le poème peut par moment contribuer à cette communauté, c'est bien. Et ça arrive de temps en temps dans les lectures à voix haute, dans les débats qui ont lieu.
Mais la sensibilité, c'est certes en général pas, sauf de façon en communication, l'arme des puissants. En revanche, l'insensibilité ou la jouissance immédiate, c'est l'arme des puissants.
C'est ça, tout à fait, l'immédiat. C'est pour ça que c'est important la longueur du poème et de l'épopée, parce que ça permet non seulement d'avoir des dimensions instantanées, très, très précise, qui est la dimension dans laquelle on essaye de nous confiner, mais qui existe, et donc elle existe aussi dans le poème, mais aussi les grandes dimensions, les histoires, justement l'épopée, c'est les grandes dimensions. We'll be right back.
C'est curieux, Laurent Grisel, à quel point les événements climatiques qui ont eu lieu il y a 252 millions d'années, on peut les connaître en quelque sorte, en savoir quelque chose, alors qu'on était loin d'être là.
Oui, on en a l'intuition, oui. En effet.
C'est curieux, on parle de trucs où l'humain n'était pas là.
Oui, mais l'humain y était. La chaleur, on connaît, les vagues monstrueuses, on connaît, on peut en avoir l'intuition. On peut en avoir l'intuition. Un poème n'existe pas sans des dizaines, des milliards d'intuitions.
Mais ce qui est intéressant et préoccupant tout de même, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on assiste, et peut-être pas aujourd'hui, mais plus encore aujourd'hui, à une espèce d'opposition entre quasiment la vie et la mort. C'est-à-dire que le monde, des humains, j'entends, il y a quelque chose dans la problématique et dans la perspective et dans l'intention des puissants, comme vous utilisez, enfin j'utilise ce mot dans le sens où vous l'utilisiez tout à l'heure, qui est au fond d'aboutir à la fin, à notre fin. Et dans la sensibilité, il y a le désir que ça continue.
C'est le défi, c'est-à-dire faire face à l'énormité des événements et prendre en compte l'énormité et que cette énormité soit présente dans le poème et que cette énormité soit un moteur du poème, de sa fabrication, de sa lecture et que cela ne débouche pas sur l'écrasement, sur la fatalité, sur l'épuisement, sur l'impuissance. C'est aussi, Climat, c'est une épopée contre l'impuissance.
Et alors, Climat, cette épopée, c'est publié aux éditions Remus.net.
Non, Publi.net, oui.
Publi.net, voilà, qui n'existe plus, mais on peut encore le trouver, je crois, celui-là.
Maintenant, on va le trouver d'occasion, parce que l'exploitation va naître très bientôt interrompue.
Et vous avez aussi publié Qui ne disent mot aux éditions Lanskin. Et Laurent, je voulais vous remercier beaucoup pour cet entretien.
Merci.
Qui prend fin sur les musiques de Steve Reich.
Merci, Paul.
Merci.
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Écoutez Aligre FM 93.1.